7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins pour se parler chaque jour du nord au sud de vos vies quotidiennes et aujourd'hui vivre dans une famille recomposée. C'est devenu une réalité qui concerne par exemple presque 10% des ménages en France, ce qui veut dire que plus d'un million et demi d'enfants vivent avec leur beau-père ou leur belle-mère et bien souvent avec des demi-frères, des demi-sœurs. Ces familles reconstruites finalement à partir d'un divorce ou d'une séparation ne sont plus stigmatisées socialement. Néanmoins, se posent des questions assez spécifiques. Alors, quel rôle pour les beaux-parents? Quelle autorité? Quelle harmonie aussi entre les membres de la famille? Et puis surtout, quelles répercussions sur l'éducation des enfants? Nous allons en discuter avec nos invités. Yvonne Poncet-Bonisol, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychoclinicienne. Stéphanie Assante, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes coach en développement personnel. Vous publiez toutes les deux « Vivre heureux dans une famille recomposée ». On peut se demander si ce n'est pas un peu de la provocation d'ailleurs.
C'est un peu de la provocation. Mais pourquoi pas? Parce que les familles, comme vous l'avez dit, sont de plus en plus recomposées. Néanmoins, on idéalise énormément cette famille recomposée en pensant que, dans un premier temps, on a fait un brouillon de famille et que maintenant, on va mettre tout ça au propre. Et bien souvent, le propre, finalement, fait écho à des blessures du passé.
Voilà, en tout cas, on est sur une page blanche hein, voilà. Chez 7 milliards de voisins. On va tenter d'écrire des réalités, des conseils aussi. Quant à vous, bien sûr, les voisins et les voisines, nous attendons vos témoignages. Si vous vivez dans une famille recomposée, quelle que soit votre place. Hein. Faites-vous face à des conflits, un sentiment d'instabilité. Bref, peut-on vivre heureux dans une famille recomposée? Et si oui, à quelles conditions? Appelez-nous dès maintenant. Surtout, n'attendez pas la fin de l'émission. Ensuite, vous êtes déçus. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages parvenus sur les réseaux sociaux, page Facebook notamment, évidemment. Okay, oui. Luther nous dit « La famille recomposée est toujours source de conflits. Généralement, quand on vit avec ses deux parents, il y en a toujours un plus sympa que l'autre pour nous protéger. C'est pas le cas dans une famille recomposée. Mais avec le temps, on finit tout de même par s'habituer à la situation. » Bon, c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Claudine Matadi, en République démocratique du Congo. Souvent, les enfants issus du premier mariage sont affectés par la séparation de leurs parents biologiques et ne sont pas prêts à remplacer un de leurs parents par un autre. Donc, c'est pas facile, nous dit Claudine. Mais si les enfants sortent indemnes de la situation et accueillent le nouveau parent avec joie et qu'une affection se crée vite, la famille peut être heureuse. Ça se travaille.
Ça se travaille. Et il faut que le partenaire, enfin, qui est resté, qui a été abandonné, entre guillemets, puisse retrouver une forme de bonheur. Dans ces conditions, les enfants s'autorisent à aimer le nouveau compagnon.
Il ne faut pas que l'enfant culpabilise.
Il ne s'agit pas de remplacer le parent.
Oui, on est à l'antenne, oui. Il ne s'agit pas de remplacer le parent, c'est bien ça.
Ouais. Voilà, il ne s'agit pas de remplacer le parent, puisque le beau-parent n'est pas là pour jouer ce rôle. Et justement, pour vivre en famille recomposée, il faut que le beau-parent trouve sa place.
Je vous lis le message d'Aristide au Niger. Je ne souhaite à aucun enfant de vivre dans une famille recomposée. Enfant, je devais contrôler tout ce que je disais à mon beau-parent, car cela pouvait devenir source de conflit. J'ai vécu amèrement cette situation dans ma vie et aujourd'hui, j'ai trouvé le salut hors de mes frontières. Ou encore le message de Cédric à Yaoundé, au Cameroun. Mon père s'est séparé de ma mère. Il a pris une autre femme. Notre belle-mère est toujours à vouloir tout nous imposer. J'en déduis que donc Cédric est un jeune qui habite toujours dans la famille. Elle veut tout diriger. Il faudrait qu'elle fasse des efforts, qu'il y ait des concessions des deux côtés pour que les tensions s'arrêtent. Ben justement, on va discuter de votre situation si vous êtes adolescent ou lycéen, jeune et que vous vivez dans une famille recomposée. Sinon aussi, si vous êtes parent, beau-parent, appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Comment réussir sa famille recomposée avec 5 enfants? Une question que Mélanie, enseignante à Rouen et mère de 3 jeunes garçons, se pose tous les jours. Elle-même d'ailleurs est fille de parents divorcés. Elle découvre la famille recomposée, mais alors cette fois du côté parents. Elle s'est confiée à Charlie Dupiot.
Je m'appelle Mélanie, j'ai 36 ans. Je suis maman de 3 enfants. J'ai fait ces enfants-là avec mon premier conjoint que j'ai rencontré très jeune. Nous avons été très heureux, nous nous sommes séparés, comme ça arrive. À la suite de quoi j'ai rencontré Damien il y a 7 mois. J'étais célibataire depuis une semaine et lui avait deux petites filles, Jeanne qui a 7 ans et Lison qui en a 4. Donc très vite on a souhaité vivre ensemble et voilà comment nous nous sommes retrouvés à vivre à 7. Alors au départ, les inquiétudes qu'on a hein, quand on fait une famille recomposée, d'abord on est en train de vivre une histoire d'amour avant tout. Et du coup j'avais peur, oui, que les enfants acceptent mal l'idée d'un nouvel homme dans leur vie qui ne soit pas leur père. Ça a été le cas au départ, il y a eu des accrochages, on a déjà eu les phrases « tu n'es pas mon père, tu ne me fais pas peur », oui ça va très vite, même au bout de 4 mois ça a déjà été dit. Il y a eu un petit accrochage entre moi et mon fils aîné, Damien est intervenu, et il y a eu donc cette fameuse phrase « tu n'es pas mon père, tu ne me fais pas peur ». On a commencé par dire que ce n'était pas leur nouveau père, que leur père il n'en avait qu'un. On a choisi le mode de la garde alternée, donc ils passent une semaine avec leur père et une semaine avec moi et Damien. Que fatalement, on les éduquerait tous les deux et qu'on essaierait d'élever les 5 enfants de la même manière. Et donc, ils allaient devoir faire un effort pour accepter cet homme-là dans leur vie. Et c'est vrai que c'est très compliqué en tant que maman d'imposer ce choix-là à ses enfants. Personne ne souhaite ça. Comme tous les enfants, hein, Jeanne nous l'a encore dit hier.
Jeanne, c'est l'une des filles voilà. De votre nouveau conjoint.
Mais hier soir, elle n'arrivait pas à s'endormir et donc elle est descendue en pleurant parce qu'elle avait, elle était angoissée et que ça la rendait triste que ses parents soient séparés et que qu'elle voulait les deux en même temps. Voilà, comme une petite fille dont les parents se séparent, quoi. Donc, et puis aussi, la grande question, c'est arriver à se mettre d'accord sur une éducation commune.
Quel désaccord vous avez pu avoir là-dessus avec votre nouveau conjoint ?
Par exemple, ce week-end, ils étaient là, tous là-haut, ils jouaient, ils ricanaient. Et j'ai l'impression qu'ils sont 5 à participer de ça. Et là, Damien est tombé sur un des garçons, puisque c'était celui qui faisait le plus de bruit. Et objectivement, oui, c'était Achille qu'il fallait disputer, et pas les autres. Mais on ne peut pas s'empêcher de dire, mais pourquoi tu disputes lui et pas tes filles? T'entends bien que tes filles rigolent aussi. Enfin, c'est... Et du coup, c'est très difficile de laisser la place... Et d'accepter que son nouvel amoureux, qui n'est pas le père de ses enfants, fasse des remarques à ses enfants.
Quelle place tout ça, ça laisse au nouveau couple que vous êtes en train de créer ?
Disons que ça teste le couple très vite. On teste voilà, la patience de l'autre, parce qu'on est en train de construire quelque chose. On se lance dans une aventure dont on ne connaît pas les règles. Bon, la base de la famille recomposée, c'est quand même le couple qu'on forme. Et on se dit, c'est suffisamment dur d'élever ses enfants, c'est suffisamment dur de construire un couple. Là, on se rajoute des contraintes. Et c'est sûr que c'est pas évident. C'est difficile d'imposer son autorité à des enfants qui ne sont pas les siens. Et en même temps, c'est ce dont on a envie. On se rend compte que ça va pas être facile tous les jours. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Yvonne Poncet, Bonisol et Stéphanie Assante, il faut avoir un master en diplomatie pour gérer une famille recomposée.
Très grande diplomatie. Ce témoignage illustre un petit peu tous les écueils auxquels sont confrontées les familles recomposées. Premièrement, qui dit famille recomposée dit la sensation que les enfants du premier lit ont été abandonnés. Et tous les enfants rêvent de faire en sorte que leurs parents biologiques se remettent ensemble. Ça, c'est un premier postulat.
Même s'ils ne le disent pas, d'ailleurs.
Même s'ils ne le disent pas, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de remettre les parents ensemble. Donc, que vont-ils faire avec le nouveau venu ? Eh bien, ils vont le tester parce que cette maman évoque tout de suite ce test à lequel elle met tout de suite à l'épreuve. Et ça, c'est juste une notion de test parce que il a volé ou elle a volé mon père ou ma mère. Donc déjà, ça, d'emblée, les enfants du premier lit vont essayer de tester la solidité du couple et surtout le nouveau venu. Donc, la première conséquence, c'est que il faut absolument ne pas être intrusif. Il faut faire en sorte que l'enfant vous adopte plutôt que de le séduire. Il faut l'accueillir, tout simplement. En disant une seule chose, déjà, s'il vous maltraite, parce qu'il peut vous maltraiter, s'il vous dit « tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère », oui, c'est vrai, je ne suis ni ton père, ni ta mère. En revanche, tout comme adulte, je demande le respect. Ça, c'est une première phase. Après, je vais laisser la parole à Stéphanie.
Stéphanie Assante, oui.
Oui, tout à fait. Effectivement, il faut laisser à ses enfants, d'une part, le temps d'apprivoiser le nouveau venu. Ça, c'est très important. Et un autre conseil précieux...
Quand vous dites le temps, ça veut dire combien de temps ?
Il n'y a pas de règle par rapport à ça, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de ne pas vouloir brusquer les choses. Hein. Il faut tisser du lien avant tout. Je crois que c'est le principal. Et ce qui est important aussi, c'est que la maman n'oublie pas de passer des moments privilégiés avec ses enfants afin de les rassurer.
Sous-entendu, sans son nouveau conjoint.
Voilà, également, de les rassurer, de montrer qu'elle est toujours présente pour eux, que c'est ça qui compte et que cet amour, quoi qu'il arrive, reste là.
Est-ce qu'une famille recomposée avec des enfants très jeunes, là on l'entendait, on est avec des enfants avant l'adolescence, c'est entre guillemets plus simple, plus facile, selon vous, Stéphanie Assante?
Pas nécessairement, ça dépend beaucoup si l'enfant a bien vécu ou non la séparation. D'un côté, si l'enfant est très jeune, on peut se dire qu'il est plus adaptable, et puis il n'y a pas toutes les difficultés que peuvent rencontrer les adolescents dans leur tête. Mais là encore, il n'y a pas de règle.
Et tout dépend aussi de l'injonction et de la position du parent, je dirais presque, qui n'a pas refait sa vie. S'il est heureux, ça se passera bien, comme on l'a dit tout à l'heure. En revanche, s'il est malheureux, l'enfant sera instrumentalisé pour faire en sorte que le nouveau couple s'effrite et faire en sorte de créer des conflits.
Vous avez le sentiment, toutes les deux, quand vous voyez des familles recomposées venir vous parler de leurs difficultés, que ces difficultés-là, finalement, aujourd'hui, elles sont relativement passées sous silence du fait de l'acceptabilité dans la société de cette solution de la famille recomposée. Donc, ça ne pose plus de problème.
Alors moi j'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'il y a une forme d'idéalisation de cette famille recomposée, néanmoins c'est vraiment un travail d'apprivoisement, un travail sur soi. On ne peut pas avoir une famille recomposée, équilibrée, sereine, si on n'a pas travaillé sur soi et ses fractures et sur le pourquoi de cette rupture. Pourquoi le premier couple finalement a eu des défaillances? Si on arrive à réparer cela, eh bien je crois que le couple et puis la famille recomposée arrivera à beaucoup plus de sérénité, mais ça c'est un travail.
Stéphanie Assante, sur cette difficulté des familles à verbaliser, elle vous en parle?
Moi j'ai quand même le sentiment que les familles arrivent de mieux en mieux à exprimer leurs difficultés. Déjà il y a une dizaine d'années on parlait très peu de tout cela, maintenant on en parle quand même de plus en plus.
Non, mais c'est vrai, d'ailleurs c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et vous nous appelez, les familles recomposées, peut-on être heureux dans une famille recomposée? Bien évidemment, vous pouvez aussi nous parler des conflits qui ont lieu dans votre famille, si vous vivez dans une famille recomposée, au 33 1 84 22 71 71.
Be strong, look ahead, step out of yourself, be wise and smart, play them hard, play them hard, hard, hard. Be tough, don't let anyone in. This madness, it knows me all too well. Just play them back.
You're right, it is true that I'm seeing shadows.
The Preach Shadows chez 7 milliards de voisins sur RFI. Tous nos regards sont tournés vers ces familles recomposées de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Donc un père, une mère, un couple qui divorce et puis qui rebâtit autre chose, qui réécrit une autre histoire et parfois d'ailleurs avec des enfants qui naissent de cette nouvelle union. Yvonne Poncet-Bonisol, une famille recomposée, est-ce que c'est pas finalement d'abord une famille qui peut donner un sentiment d'instabilité aux enfants?
Oui. C'est-à-dire que c'est aussi une famille recomposée, c'est une deuxième histoire d'amour, une grande histoire d'amour, et on se doit d'être heureux. Les enfants là-dedans ont l'impression, finalement, de ne plus trouver tellement leur place. Et surtout, il faut savoir que l'histoire d'amour, c'est la scène, une scène merveilleuse où se joue la répétition et où se joue toutes nos blessures. Alors, c'est pour ça qu'on disait au début de l'émission, si tant soit peu on n'a pas fait un travail, justement, sur notre façon d'aimer, sur notre façon d'accueillir l'autre, sur notre façon de reprocher énormément de choses à l'autre, et que ces reproches sont souvent une projection de nos propres blessures, si on n'a pas fait un travail là-dessus, eh bien, c'est comme si on avait juste changé de partenaire, et là, d'autres ruptures peuvent se profiler. Je veux dire qu'il faut vraiment travailler sur ce qu'on répète.
Mais d'autant plus que les chiffres le montrent. Hein. En France, on a 50 à 70% de probabilité qu'il y ait une nouvelle rupture avec une famille recomposée. Hein.
C'est pour ça qu'il est tout à fait essentiel de réparer ces blessures du passé pour pouvoir construire son nouveau couple sur des bases solides, d'une part. Et il faut aussi songer aux enfants, hein, je pense, qui perdent beaucoup leurs repères dans le cadre de la séparation et qui doivent s'en construire de nouveau.
Il y a plus de probabilité d'échec si la famille recomposée fait vivre les enfants de part et d'autre de l'ancienne histoire ensemble ou pas, Stéphanie Assante, pour vous?
Évidemment, je dirais...
Ça complique les choses encore.
Ça complique les choses si le nouveau couple n'a pas pris soin d'établir une communication saine avec les anciens conjoints, de se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent construire ensemble, d'avoir peut-être des règles d'éducation communes. Il y a fort à parier qu'il y aura de nombreux conflits.
Et on parle de famille recomposée, mais on oublie une chose, c'est de parler de fratrie recomposée. Or, les
cohabitations,
cohabitation n'est pas toujours évidente.
Entre des enfants pas de lien biologique.
Voilà. C'est parfois très compliqué, avec des caractères différents, des positionnements différents.
Pourquoi?
C'est très simple. Si vous voulez, les enfants doivent trouver une place sur le nouvel échiquier familial. Par exemple, vous étiez l'aîné et puis paf, d'un seul coup, vous ne l'êtes plus. C'est quand même compliqué à gérer. Et les parents, quant à eux, n'auront pas forcément les mêmes règles au quotidien. Il faut en plus s'adapter en fonction de l'âge des différents enfants. Ça peut rapidement devenir un casse-tête.
J'ai lu quelque part qu'il faut entre 3 et 5 ans pour stabiliser une famille recomposée.
Largement. Ah oui.
Largement, vous dites.
Je dirais presque 3 ans, ne serait-ce que la famille recomposée, le couple déjà pour se solidifier, pour se connaître, pour faire un travail sur soi et sur un lien d'attachement, et ensuite cette fratrie recomposée qui doit s'adapter les uns aux autres. Et j'insiste vraiment, c'est très important, parce que ce qui fait des fractures dans les familles recomposées, c'est souvent celui qui est resté seul.
Ouais. L'arrivée d'un nouvel enfant, scelle la famille recomposée ou nouvelle complication à ce moment-là?
Non, je pense que ça peut sceller la nouvelle famille recomposée, parce que du coup, toute cette fratrie, eh bien, peut se protéger cet enfant qui est là. D'un seul coup, ils deviennent demi-frère et demi-sœur à part entière.
Et un nouvel enfant qui lui aussi va devoir trouver une place. Pas tout à fait la place ordinaire qu'il aurait sinon.
Oui, mais pour moi, il crée un trait d'union, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est plus une famille d'un côté, une famille de l'autre, mais l'ensemble est réuni. Et ça, c'est
totalement d'accord. Donc c'est un lien très important et qui favorise, je pense, là, du coup, une forme de communication dans la fratrie.
L'arrivée du nouvel enfant, on va bien sûr en parler aussi juste après le flash, la cohabitation entre ces enfants qui n'ont pas de lien biologique, et puis comment pacifier les relations, comment créer une forme d'harmonie, parce que vous publiez « Vivre heureux dans une famille recomposée », sous-entendu, c'est possible, les clés pour bâtir des relations sereines, positives entre parents, beaux-parents et enfants, quand faut-il s'y retrouver. Vous restez toutes les deux avec nous, Yvonne Poncet-Bonisol et Stéphanie Assante, et bien évidemment, vous nous appelez, les voisins, les voisines, si vous vivez dans une famille recomposée, au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans 3 minutes après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons des familles recomposées aujourd'hui. C'est-à-dire, je réexplique tout de même un divorce et puis un homme, une femme qui réécrivent une autre histoire, chacun de leur côté. Parfois même, ils ont des enfants dans cette famille recomposée. Et puis parfois, on le disait en première partie d'émission, des enfants qui n'ont pas de lien biologique entre eux sont amenés à vivre ensemble sous le même toit. Les enfants du père, les enfants de la nouvelle conjointe, par exemple. Nous en discutons avec vous, Yvonne Poncet-Bonisol, psychoclinicienne, et Stéphanie Assant, coach en développement personnel, parce que vous publiez toutes les deux « Vivre heureux dans une famille recomposée », où il y a beaucoup de conseils. D'ailleurs, on va en donner des conseils. Et quant à vous, bien évidemment, les voisins, les voisines, où que vous soyez, vous nous appelez si vous vivez une histoire de famille recomposée, que vous soyez parents, beaux-parents, enfants. 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un jeune de 17 ans qui nous appelle du Burundi. Gongolo, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Gongolo, vous nous appelez, je crois que vous êtes à peu près à 70 km de Bujumbura et vous vivez une situation familiale difficile, je crois. C'est ce que vous avez dit au standard, n'est-ce pas?
Oui. Eh bien, moi, ma mère avait divorcé avec mon père lorsque j'avais 9 ans. À l'âge de 13 ans, ma mère s'est mariée avec un autre homme. Il y a de cela 4 ans, mon beau-père menace ma mère de me chasser en disant qu'il ne peut pas continuer à nourrir un enfant qui n'est pas le sien. Et moi, tout ce que je fais pour mon beau-père est désagréable pour lui. Il m'a toujours répété sans cesse que je suis une menace pour lui.
Vous êtes une votre beau-père vous perçoit comme une menace. Mais par exemple, Gongolo, dites-nous ce qui déplaît à votre beau-père dans ce que vous faites au quotidien.
Ben, écoutez, le fait que moi je suis là et que je mange la nourriture qu'il paye, lui, écoute, c'est déjà, lui, il appelle ça une menace.
Une menace financière, quoi. Là, il menace une menace sur le fonctionnement financier du ménage.
Oui, oui, c'est exactement ça. Et donc, ma présence lui gêne. Ma présence lui gêne. Il dit, comment je peux laisser avec l'enfant qui n'est pas le mien? Et maintenant, ma mère me dit, elle aussi, qu'elle n'est pas prête à divorcer avec mon beau-père à cause de moi. Oui. Et que donc, je dois partir, aller très loin de la maison pour chercher mon père, oui, que je ne connais même pas là où il est. Écoutez, cette histoire me dépasse vraiment. Et donc, j'aimerais bien poser la question aux invités,
oui,
de savoir comment serais-je pour quitter cette épargne, comment dois-je faire vraiment.
Oui, oui. On sent bien que vous vivez une situation très difficile, hein, Gongolo. Yvonne Poncet-Bonisol.
Donc je pense, Gongolo, que vous êtes toujours vis-à-vis de ce beau-père qui est quand même, attends, soit un peu maltraitant vis-à-vis de vous. Vous êtes dans une quête de reconnaissance. Et il est vrai que plus l'enfant, quelque part, est rejeté, plus il cherche à plaire à cet homme qui est rejetant, plus il cherche à se faire pardonner d'être quelqu'un qui est en trop.
Et plus il souffre.
Donc, quelque part, votre beau-père sent que vous êtes dans cette quête de reconnaissance, et comme il ne peut pas vous reconnaître, comme s'il voulait gommer les éléments de l'histoire de votre mère, son passé. Il veut gommer son passé. Donc, il est vrai que je pense que vous devriez rester à côté de votre mère, mais tant soit peu, prendre votre autonomie. Prendre ce conflit comme quelque chose de très intéressant. Ça doit vous aider à prendre votre envol et à vous autonomiser encore plus rapidement. Cette autonomie va vous donner une forme de liberté. Je dis pas qu'il faudrait que vous alliez du côté de la quête de votre père biologique, mais essayez de trouver autour de vous des tuteurs, des personnes qui sont là pour vous aider. Cherchez un regard, cherchez un tuteur pour faire en sorte de rebondir dans votre vie, mais cessez de quémander de l'affection vis-à-vis de votre beau-père qui, pour le moment, est incapable de vous en donner.
Oui, et Gongolo, est-ce qu'il y aurait un membre de votre famille, un oncle qui pourrait vous accueillir de temps à autre, en tout cas dans la semaine, ne serait-ce que pour mettre un peu plus de distance entre vous et votre beau-père?
Non, il n'y en a pas, sauf qu'il y a certains voisins. Et parfois, quand je me plains à chaque fois aux voisins, elles aussi rejettent la responsabilité. Ils disent qu'ils en ont marre avec de telles choses qui se répètent à chaque fois à tout moment.
Gongolo, on comprend bien la situation. C'est peut-être bien d'aller effectivement chez des voisins.
Hein, totalement, parce que c'est des tuteurs.
Voilà.
Savoir qui, finalement, a un regard positif sur vous, parce que vous êtes vraiment dans une quête, mais je dirais presque douloureuse de reconnaissance. Donc, ayez autour de vous... Essayez de capter des regards bienveillants qui sont en mesure de vous aider.
Voilà, regardez vers l'avenir, Gongolo. Vous avez 17 ans, certes c'est difficile parce qu'on n'est pas autonome à 17 ans et que donc justement on est obligé de rester attaché au foyer auquel on appartient, ne serait-ce que pour être nourri, logé.
Mais
ça va s'arranger, voilà, exactement. Bon courage, hein, Gongolo, on pense bien à vous. Vous êtes d'autant plus dans un pays aujourd'hui qui vit des heures difficiles et j'imagine que ça ne doit pas arranger les choses, ne serait-ce que pour votre optimisme et votre foi en l'avenir. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un père de famille, Haché, qui est à Libreville au Gabon. Bonjour Haché, est-ce que je prononce bien votre prénom déjà ?
Oui, H.
D'accord, H. Nous vous écoutons. Vous avez 40 ans, je crois, et vous êtes père de deux enfants. Trois enfants.
Oui. Et ça fait 6 ans que je vis avec ma concubine. Qui a deux enfants.
Oui.
Voilà, donc pour moi, je pense qu'une famille recomposée, on peut être heureux parce que nous nous sommes très heureux. C'est juste un cas où il faudrait que les adultes acceptent d'abord ces enfants-là. Moi, quand je me suis mis avec mon amie, qui aujourd'hui est quasiment ma femme, elle m'a pas tout de suite dit qu'elle avait des enfants.
Ah bon?
Oui, 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 tout de suite elle me l'a caché parce que en fait elle vivait avec un homme qui battait les enfants. Donc je pense qu'il y a eu une forme de protection.
Oui.
Mais avec le temps, elle s'est ouverte à moi parce qu'elle a tout de suite compris que j'étais quelqu'un de très vrai, quelqu'un de très aimable. Et elle m'a fait confidence qu'elle avait deux enfants, et puis moi je demandais pourquoi elle avait caché ses enfants. Elle m'a tout de suite, non, en fait, elle protégeait ses enfants quand il y avait une forme de protection contre des agressions. Elle avait peur que ça recommence et autres et tout, parce que juste avant de m'avoir, elle a connu un homme, mais un homme qui n'appréciait pas ses enfants.
Restez en ligne avec nous, H. Stéphanie Assante veut intervenir.
Oui, effectivement, dans une famille recomposée, je pense que la crainte de part et d'autre, c'est de faire face à un sentiment de rejet de la part du beau-père ou de la belle-mère, avec les éventuelles maltraitances qui peuvent en découler. On l'a vu à travers le témoignage précédent. Moi, j'aimerais quand même souffler aux adultes que s'engager dans une famille recomposée, c'est aussi un petit peu prendre ses responsabilités, notamment vis-à-vis des enfants. Il ne faut pas s'engager à la légère si c'est pour faire souffrir les enfants du premier mariage. Et j'ai envie de dire, c'est aussi trouver en soi cette capacité à ouvrir son cœur aux enfants de son conjoint. Et si on n'en est pas capable, il vaut mieux peut-être choisir une autre voie.
Oui, parce qu'on n'est jamais obligé de recomposer une famille. A priori, on est sur un choix libre.
Et donc, ça teste aussi notre capacité à aimer l'autre et à aimer les enfants des autres, ce qui n'est pas évident. Donc, ça teste vraiment notre pouvoir à créer du lien et à créer de l'amour.
Oui.
Et pour ça, il faut être dans l'accueil de l'enfant. Et quand on disait tout à l'heure qu'il ne faut pas le séduire, parce que la séduction, c'est une forme, c'est frontalier avec la manipulation.
Oui. Alors justement, j'allais vous poser la question, vous avez quel genre de rapport avec les enfants de votre conjointe qui ne sont pas vos enfants? Je ne sais pas quel âge ils ont d'ailleurs.
Bon, maintenant, ils ont... le premier, il a 12 ans. Juste un an de moins que mon fils qui a 13 ans. Bon, ce sont mes enfants.
Oui.
Et en fait, ils sont arrivés à la maison, il avait 5 ans.
Oui. Vous les avez élevés comme vos propres enfants, finalement, c'est ce que vous dites.
Mais oui, en fait, le but, c'est celui-là. Il faut les élever comme vos propres enfants, parce que quand on décide de se mettre avec une dame partagée, c'est ça, partager d'abord. Il faut qu'on ait dans le principe de partager. Alors, moi, je veux partager ma vie avec leur maman, il faudrait que je la partage avec les enfants aussi.
Oui.
Les enfants n'ont pas été très, 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 très capricieux. Tout de suite, ils les ont embrassés, et puis bon, ben,
Bon, bah voilà, voilà l'histoire heureuse de famille recomposée, en tout cas. On en avait besoin, H. Merci beaucoup de nous appeler, de nous avoir appelé de Libreville au Gabon. Je rappelle notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une voisine qui est à Dakar, au Sénégal. Bonjour, Awa.
Bonjour, Emmanuel.
Vous avez 34 ans. Votre maman est décédée quand vous étiez toute petite et vous avez grandi avec une belle-mère. Donc, une famille recomposée aussi, hein, d'une certaine façon.
Voilà. C'est l'aspect que je voulais aborder. Oui. C'est que vous abordez beaucoup les familles recomposées par divorce, oui, mais aussi les familles recomposées,
bien sûr,
par décès.
Vous avez tout à fait raison.
Où l'approche, selon moi, n'est pas la même pour le nouveau parent, qui, entre guillemets, a plus de contrôle, puisque n'a plus le parent adverse à le devoir gérer. Quoi.
Oui, le parent adverse, comme vous dites, c'est-à-dire l'ex-conjoint, finalement. Hein.
Ou le conjoint décédé, oui.
Vous, ça s'est bien passé?
Au départ, ça s'est très bien passé. Bon, j'ai des frères et sœurs liés de la deuxième couche, et puis ma belle-mère était venue avec déjà un enfant. Mmh. Aujourd'hui, nous, on s'entend très très bien entre nous, les enfants. Mais avec la belle-mère, on se dit juste bonjour, bonne année, bon anniversaire.
Ah, rien de plus.
Ouais, rien de plus.
Et pourtant, vous l'avez connue toute petite.
Oui, oui, elle m'a élevée, je lui suis très reconnaissante, mais plus on grandissait, plus elle faisait des différences. Moi, j'ai toujours considéré, mais bon, pour la petite histoire, un jour, elle nous présentait normalement, et un jour, on ne sait pas pourquoi, elle s'est levée, elle a commencé à nous présenter comme les enfants de son mari. Et de là, tout est parti de travers, quoi.
Ah oui, oui, c'est curieux, effectivement.
Et c'est de là que la transition s'est faite, et on a senti une séparation entre l'éducation qu'elle voulait donner à ses enfants et l'éducation qu'elle donnait à ses enfants, entre guillemets, adoptés.
Mais alors, tout de même, la marge de manœuvre, Yvonne Poncet-Bonisol, est étroite, hein, pour la belle-mère, là. En l'occurrence, ne pas prendre la place de la mère, bon, même si elle
décédée.
Est décédée, même décédée.
Hein, parce qu'il faut savoir que même décédée, la maman décédée, il y a l'ombre de la mère qui plane. Le parent décédé est toujours idéalisé. Et je crois que votre belle-mère, finalement, tant que vous étiez petite, elle a materné. Je dirais que c'est très facile de materner. Mais en l'occurrence, c'est facile de materner, mais c'est difficile d'aimer. Et quand les enfants deviennent grands, c'est là, ou plus grands, disons à l'adolescence, et ben il y a une véritable séparation. Elle est plus dans un rôle de maternage et de nounou. Elle est dans le rôle d'une mère. Et vous
dites, ça peut être très mal vécu.
Très mal vécu.
Elle fait des différences, hein,
oui,
c'est
mais
ça.
Vous savez, elle se sent comme une enfant adoptée par sa belle-mère. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas eu cette fonction de mère, de confidente, d'amie. Il y a quelque chose qui a été raté dans cette relation avec cette belle-mère.
Stéphanie Assant.
Moi, je dis, il n'est jamais trop tard, et j'ai envie de vous poser une seule question. Avez-vous envie d'avoir de meilleures relations avec votre belle-mère?
Ah ouais.
Si la réponse est oui.
Alors, on va laisser répondre à Awa, à Dakar. Voilà.
Oui. Aujourd'hui, non, après tout ce qui s'est passé, non, moi, je suis à l'aise comme je suis. Hein.
Ah oui, vous avez tiré un trait, finalement.
Ah maintenant, oui, complètement.
Mais parce que vous êtes resté stigmatisé sur la trahison, vous êtes senti trahi dans l'amour que vous lui portiez.
Ah oui, non, complètement. Parce que pour vous dire, moi-même, le jour de mon mariage, les gens qui ignoraient que ma mère était décédée étaient persuadés que c'était ma mère.
Oui.
Voilà. Et donc, c'est pour vous dire quel genre de respect je lui donnais. Maintenant, aujourd'hui, après tous les coups qui s'est passé, non, moi, si je veux dire, c'est vraiment parce que c'est la mère de mes frères et sœurs que je lui dois ce respect. Mais sinon, je ne lui dirais même pas bonjour.
Stéphanie Assant.
Alors oui, bien évidemment, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. Simplement, il faut savoir que dans la vie, c'est difficile de vivre avec un poids comme ça, une rancœur. Ça reste toujours une forme de tristesse. Donc je vous invite simplement à réfléchir. Est-ce que vous avez envie de pardonner ou pas? Cela pourrait peut-être vous alléger, mais c'est à vous de voir. Bien sûr, vous êtes libre.
Ou peut-être essayer de discuter avec votre belle-mère. Mais c'est ça, j'imagine que ça ne doit pas être simple. Est-ce que vous en avez parlé à vos demi-frères et sœurs?
Ah oui, oui, tout à fait. On s'en est parlé et on s'est dit que, écoutez, ça a créé tellement d'histoires. Pour vous dire, même son enfant appelait mon père papa et aujourd'hui l'appelle par son prénom.
Ah oui.
Tellement ça a mis des conflits. Et on s'est dit que nos parents, qui étaient peut-être aussi eux-mêmes séparés du coup à la fin,
ouais.
à cause de toutes ces histoires, mais que nous, on est quand même des frères et sœurs, on a grandi ensemble, et le mot d'ordre, c'est l'union.
Ah, c'est ça, donc, vous êtes une belle fratrie recomposée,
oui,
là, en tout cas.
Alors, la fratrie recomposée est réussie.
Moi, ma sœur nous a présenté son petit ami, elle nous a appelé tout de suite, pourtant on habite à l'étranger, on a pris l'avion pour aller en France. Non, pour ça, il n'y a pas de souci.
C'est déjà très beau,
c'est déjà. C'est une belle histoire quand même. Merci beaucoup Awa de nous avoir appelé de Dakar, 33 1 84 22 71 71. Il faut qu'on parle tout de même du rôle, de la place du beau-parent, ne serait-ce que déjà la place juridique. Si on revient à la situation française aujourd'hui, on a un relatif vide juridique pour le beau-parent.
Je crois qu'effectivement la justice tente de créer des lois, et là je vais laisser la parole à Stéphanie parce que elle a creusé un peu le sujet. Il y a des juristes quelque part, donc je crois.
Alors il y a la délégation volontaire d'autorité parentale aujourd'hui quand on est beau-parent.
Oui, voilà, tout à fait, mais il faut savoir que c'est très compliqué à obtenir. Il faut passer devant le juge aux affaires familiales, donc c'est une procédure très lourde. Et il y a actuellement un projet de loi qui n'est pas encore totalement adopté, mais qui pourrait créer un mandat d'éducation quotidienne où la formalité pour donner pouvoir aux beaux-parents pour les actes de la vie quotidienne serait beaucoup allégée.
Notamment dans les relations avec l'école, par exemple.
Oui, l'école, emmener chez le médecin, aller chercher un enfant à l'hôpital qui s'est blessé, des choses toutes simples, mais qui peuvent causer beaucoup de problèmes aujourd'hui.
Alors, il faut dire quand même que c'est un sujet qui est sensible en France parce que il y a eu les affrontements sur le mariage pour tous, et que donc qui dit beaux-parents dit aussi beaux-parents dans le cadre d'un couple homoparental, etc. Et donc ça n'est pas simple. En tout cas, en Belgique, en Italie, en Espagne, la loi ne reconnaît pas non plus du tout le beau-parent. En Grande-Bretagne, le beau-parent peut détenir l'autorité parentale s'il partage le même lieu de résidence que les enfants. Donc il y a des situations qui sont très variables en fait aujourd'hui en Europe. Est-ce que la loi donne une place particulière ensuite aux beaux-parents, le fait qu'il y ait des lois qui disent oui, non, qui permettent un vrai statut ensuite dans la famille, au quotidien, sur le plan psychique, pour le beau-parent, ça peut être plus simple ou pas forcément, Stéphanie?
Alors, plus simple, oui, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais il y a surtout un problème de reconnaissance, parce que finalement, le beau-parent se sent frustré, parce que concrètement, il assume beaucoup de missions et de tâches au quotidien, et en contrepartie, il n'est reconnu par personne.
Sauf, il doit être absolument et impérativement reconnu par le conjoint. Il faut que le nouveau couple fasse bloc par rapport aux enfants. S'il y a la moindre faille, il s'engouffre, et ça c'est dramatique. Donc pour que le beau-parent puisse opérer et puisse être dans l'accueil des nouveaux, de ses beaux-enfants, il faut que le parent finalement soutienne ce beau-parent.
Y compris si on n'est pas forcément d'accord dans un couple sur l'éducation à donner aux enfants.
Complètement.
Hein. D'autant plus quand ce ne sont pas les deux parents biologiques.
Donc il faut que ça fasse bloc.
On va donner des conseils, comment créer une forme d'harmonie. Vous suggérez de rédiger une charte familiale. En tout cas, c'est dans votre livre, Vivre dans une famille recomposée. Nous en parlons dans quelques instants. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Comment créer l'harmonie dans une famille recomposée? nous parlons des familles recomposées aujourd'hui. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On a entendu beaucoup de témoignages. Alors certains témoignages plutôt assez positifs, assez heureux, mais d'autres où malgré tout on sent poindre une certaine souffrance, parfois une certaine rancœur ou tristesse. Vous publiez toutes les deux, Yvonne Poncet-Bonisol et Stéphanie Assante, Vivre heureux dans une famille recomposée. Alors quelle clé pour bâtir des relations sereines, positives? Ça veut pas dire qu'il faut se voiler la face, hein. Bien évidemment, on ne l'a pas fait depuis le début de l'émission, mais comment créer cette forme d'harmonie dans cette famille recomposée, Stéphanie?
Alors, je dirais que le bonheur est parfois basico-basique, hein, si vous me pardonnez l'expression. Moi, j'ai vu des femmes qui finalement se sont trouvées beaucoup mieux dans leur vie quotidienne, simplement parce que leur conjoint leur avait enfin vidé les armoires et qu'elles pouvaient installer correctement leurs affaires. Voilà, donc...
Sous-entendu quoi? Parce qu'il y avait encore des affaires de l'ancienne conjointe ou...
Oui, sous-entendu qu'on est un peu pas comme des animaux, mais qu'on a besoin déjà d'avoir un territoire, que déjà pour trouver sa place, eh bien, il faut avoir une place concrète dans la maison, un espace à soi. Et je parle à la fois pour la nouvelle conjointe que pour les enfants. Chacun a besoin d'avoir sa place pour lui.
Vous voulez dire, Stéphanie, qu'il ne faut surtout pas vivre dans les meubles et dans les lieux habités par l'ancien couple. Ça me paraît une évidence. Il faut savoir se créer son espace et se créer son nid.
Oui, ça joue. Vous dites aussi qu'il faut partager des moments. Ça veut dire quoi concrètement? À partir du moment où on vit sous le même toit, on partage les repas, on partage la vie quotidienne. Alors, à quoi faites-vous référence en termes de moments?
Alors là encore, ça peut être des choses très simples, hein. Je pense qu'il faut s'intéresser à ses beaux-enfants et tout simplement essayer de trouver des activités communes qui font plaisir à tous. Ça peut être aussi simple que regarder un film en famille, faire une promenade, aller au cinéma, faire du shopping, voilà Yvonne, tout à fait. Il faut pas forcément chercher midi à 14h, mais il faut sortir justement du côté repas,
oui, juste l'indispensable, voilà. Rien d'autre.
Exactement.
Parce que vous dites finalement, moins on partage d'activités ensemble, moins on se connaît. On a comme ça des cas de familles recomposées avec des beaux-parents qui connaissent très peu leurs beaux-enfants, même s'ils partagent le même toit.
Oui, parce qu'ils ne s'autorisent pas, ils jouent à être un parent. Mais ils ne sont pas un confident, ils ont peur de ça, c'est la peur de la communication, la peur de rentrer dans une forme d'intimité. Donc on est sur ses gardes, il y a une forme de pudeur qui s'installe. Et je crois qu'il faut casser cette notion de pudeur pour accéder, il faut les inciter à plus communiquer.
C'est très compliqué. Parce que l'enfant peut être aussi un peu renfermé, t'es pas ma mère, t'es pas mon père.
Mais il faut savoir reformuler ce qu'il a dit et dire, écoute, tu sais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va pas trop bien. Ou aujourd'hui, c'est génial parce que tu es empli de joie. Enfin, il faut savoir décrypter ses émotions. Et ça favorise la communication.
Tout à fait. Et puis, simplement, intéressez-vous à ses amis. Voilà. Intéressez-vous à ce qu'il aime. Et oui, même si c'est des jeux vidéo qui ne vous plaisent pas forcément. Allez sur son terrain. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on conquiert le cœur d'un petit garçon, d'une petite fille, d'une ado. Voilà.
Sans être intrusif,
bien sûr.
On accueille une dernière voisine qui nous appelle d'Italie, de Ferrara. Valentina, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Valentina, vous souhaitiez intervenir. Je ne sais pas si vous avez grandi dans une famille recomposée.
Oui, exactement. Alors, je suis née de maman suédoise et d'un père italien.
Oui.
Ils se sont séparés dès que je suis née.
Ouais.
Donc voilà, après, ma mère a trouvé un autre homme,
ouais,
duquel elle tombait amoureuse. Donc ils ont eu plusieurs enfants. Et mon père biologique aussi, de son côté.
Et, bon, bah alors, moi, en tout, vous êtes une fratrie de combien d'enfants, alors, finalement?
Nous sommes... excusez-moi.
Elle va compter en direct, c'est extraordinaire, ça, Valentina.
Nous sommes six.
Vous êtes six, d'accord.
Ouais. Oui, et moi, j'ai l'honneur d'être l'aînée. Donc voilà, je suis très contente pour ça. Et moi, je voulais dire que ma recomposition de famille a été très heureuse. Donc, il y a eu, bien sûr, des moments un peu de crise et de remise en question de soi-même en tant qu'enfant. Et remise en question aussi du rôle des différents parents.
Et aujourd'hui, chacun a sa place. Vous avez quel âge, Valentina?
Moi, j'ai 23 ans. Et ça a été une recomposition très heureuse, car il y a eu des points très importants pour cette recomposition, c'est-à-dire un amour mutuel, un respect, de la loyauté et un dialogue continu. Donc, il n'y a pas vraiment eu des embarras. Mes parents n'ont jamais mal parlé l'un de l'autre. Mm. Tout s'est fait dans le respect. Et moi, je suis très contente car il y a beaucoup de points positifs comme une famille élargie, beaucoup de responsabilités pour le petit frère. Mm. Donc, tout le monde a gagné.
Formidable, formidable cette famille recomposée. Et puis alors, bravo pour votre niveau de français. Je ne sais pas comment vous parlez aussi bien français, Valentina.
Je l'étudie dans mon temps libre.
Ah d'accord.
J'aime beaucoup le français.
Ah oui,
pas mal. Une des clés finalement de la réussite, c'est qu'effectivement les deux parents biologiques, même quand ils refont un autre couple, eh bien ils restent amis. Il y a une forme d'amitié et de respect. Ça c'est très important. Et aussi, ils vous ont laissé une place hyper intéressante. C'est cette place d'aîné. Mmh. Vous dites j'ai eu l'honneur de. Mmh. Donc cette place a favorisé finalement cette union de la fratrie recomposée. Et c'est vous quelque part qui avez scellé tout ça et qui avez fait en sorte que cette fratrie recomposée puisse s'épanouir au quotidien.
Merci beaucoup Valentina de nous avoir appelé. On a beaucoup appris aussi grâce à votre témoignage. Et merci à vous Yvonne Poncet-Bonisol et Stéphanie Assante. Donc vous êtes respectivement psychoclinicienne et coach en développement personnel et vous publiez Vivre heureux dans une famille recomposée aux éditions d'Angle. Demain, 7 milliards de voisins, construire sa maison grâce au microcrédit. C'est une pratique qui se développe en Afrique. On en parle avec vos appels bien sûr. À demain.